Bonjour à tous, Liliane sur Radio Grand Ciel pour l'émission Figure de l'Histoire. Moulins, le 20 octobre 1548, Antoine de Bourbon épouse Jeanne, fille unique du roi de Navarre, Henri d'Albret. Qui est donc Antoine ? C'est le chef de la maison de Bourbon, parce qu'il descend du dernier fils de Saint-Louis. D'après ses domaines à lui et les sommes de ses revenus, on ne peut pas dire que ce soit un grand seigneur. C'est un seigneur de moyenne importance. Mais, quand même, son titre de premier prince du sang le rapproche du roi. Et au cas, bien improbable en cette année 1548, où le roi, c'est Henri II, hein, et ses fils viendraient à disparaître, eh bien, Antoine de Bourbon, on dit encore Antoine de Vendôme, pourrait devenir roi. Alors pourquoi ce mariage arrangé par le roi Henri II ? Eh bien, il a peur que les Albrets se réconcilient avec l'Espagne, parce qu'à ce moment-là, la route des Pyrénées serait ouverte pour une invasion espagnole. Et qu'apporte Jeanne d'Albret ? Alors là, c'est autre chose. La Navarre française. Oui, il n'y a pas de loi salique là-bas, c'est-à-dire que les femmes peuvent hériter. Hein. Le Béarn, le comté de Foix, ça correspond à peu près à l'Ariège actuel. L'Albret, c'est le nord du Gers et le sud du Lot-et-Garonne. Le comté de Périgord, le vicomté de Limoges, les comtés d'Armagnac, de Fézensac, de l'Île-Jourdain, de Pardiac, les vicomtés de Lomagne, des Quatre-Vallées. Bon, bref, plein de territoires. Et ils ont été parfaitement gérés, ces territoires-là, par le père. Donc, Jeanne a été élevée, elle, à Plessis-les-Tours. François Ier, d'ailleurs, voulait maintenir les Albrets sous l'influence française. Et il l'avait mariée au prince de Clèves, Jeanne. Un mariage qui ne fut pas consommé et puis qui s'est terminé parce que le prince, il est mort avant. Alors, on revient au mariage d'Antoine et Jeanne. Et contre toute attente, c'est un mariage arrangé. Hein. Et bien finalement, Jeanne et Antoine s'aiment, tout au moins pendant les premières années de leur mariage, parce qu'après ce sera autre chose. Le nouveau couple alors se rend auprès de la mère d'Antoine, Françoise d'Alençon. Elle habite le château de Vendôme. De là, Antoine et Jeanne partent pour la cour de France, qui à ce moment-là se trouve à Saint-Germain-en-Laye. Et pourquoi donc ? Eh bien, pour assister aux noces de François de Guise, qui épouse la petite fille du roi Louis XII. Début 1549, ils regagnent le Béarn. Alors, ça va commencer pour eux des séparations et des itinérances. Ils ne vont pas rester beaucoup là et ils vont beaucoup voyager. C'est la même chose d'ailleurs pour tous les couples princiers. Et il faut exploiter les domaines, et les domaines sont assez dispersés. Et puis, les affaires familiales, alors, sont le plus souvent tout ça à la charge de l'épouse. En principe, c'est elle qui reste sur ses terres, pendant que le mari tient son rang, en général dans l'entourage du roi, remplit sa charge de grand officier, et puis évidemment, part aux armées. Et bien justement, Antoine commande sur la frontière de Picardie. Jeanne arrive à le rejoindre de temps en temps, et de 1551 à 1554, c'est la guerre ininterrompue. Contre qui ? Contre Charles Quint. Jeanne s'est installée au château de Coucy et c'est là que naît son premier fils, le 21 septembre 1551. On le prénomme Henri comme le grand-père. Il reçoit le titre de duc de Beaumont. Plus tard, elle rejoint son mari à côté d'Abbeville. Et c'est là qu'Henri IV est conçu. À la mi-juin, Antoine insiste pour que Jeanne prenne des dispositions pour accoucher soit à la Flèche, soit à Vendôme. Juillet, Jeanne est à la Flèche avec son premier fils et ce dernier meurt asphyxié le 20 août 1553 à cause de mauvais soins de sa gouvernante. Antoine l'apprend et adresse à Jeanne des consolations tirées de l'Écriture sainte, comme si le calvinisme avait déjà prise sur lui. Son père lui écrit de venir en Béarn, le père de Jeanne. Antoine est d'accord et il la rejoindra. Donc, les voilà partis. En octobre, ils sont à Mont-de-Marsan. À la mi-novembre, on arrive à Pau. Le père de Jeanne est partout. Il lui présente une superbe chaîne en or et il la lui promet ainsi que tout son héritage si elle ne lui donne pas une pleureuse. Ce qu'il appelle une pleureuse, c'est une fille. Hein. Et si en accouchant, elle chante en béarnais la chanson des accouchés. Dans la nuit du 12 au 13 décembre 1553, les douleurs se déclarent. Alors vite, on va chercher le père de Jeanne, Henri d'Albret, qui veut absolument être présent. Et Jeanne chante en béarnais Notre-Dame du bout du pont. Elle met au monde un fils. Alors le grand-père est fou de joie. Il prend l'enfant, l'enveloppe dans sa robe de chambre. Il donne à sa fille la chaîne et il ajoute que l'enfant est à lui. Il l'emporte dans sa chambre, lui frotte les lèvres d'une gousse d'ail. Il lui présente une coupe de vin et dit « Tu seras un vrai béarnais ». Alors, bon, ça c'est l'anecdote, elle est vraie, hein. Mais en réalité, il n'y a rien d'exceptionnel. Tout le monde faisait ça, parce que c'est par souci de prophylaxie qu'on utilise l'ail, qui est vraiment connu universellement pour écarter tous les germes de maladie. Et pour avoir le même effet, c'est l'odeur du vin. Donc, il n'a quand même pas avalé de vin, Henri IV, le futur Henri IV, mais il l'a sûrement senti. Voilà. Et c'est bien sûr du vin de Jurançon. Le grand-père redescend, présente l'enfant à ceux qui ont envahi la chambre, sort sur le balcon, crie la nouvelle à la foule qui est massée au pied du château. Et Jeanne ne peut pas nourrir l'enfant, alors on lui cherche une nourrice. Plusieurs. La dernière, c'est Jeanne Fourcade, la femme de ce Jean, que le roi verra un jour faire irruption au Louvre avec un panier de fromage de la vallée d'Ossau pour son ancien pupille. Donc, le petit prince est logé chez sa nourrice dans la métairie qui se trouve à l'extrémité du parc du château. La maison existe encore. À 3 mois, Henri, le 6 mars 1554, est baptisé. Henri d'Albret, qui vit simplement, sans faste, veut pour ce baptême alors une fête magnifique. Il a commandé à un orfèvre des fonts baptismaux en vermeil. On dépense 2 quintaux de cire pour l'illumination. Les représentants de tous les domaines sont là. Les parrains, eh bien les parrains, c'est le grand-père, c'est souvent ça à l'époque, hein, ou la grand-mère quand était la marraine. Le cardinal de Vendôme, Charles, le frère d'Antoine de Bourbon. La marraine, c'est Isabeau d'Albret. L'officiant, le cardinal d'Armagnac, qui est évêque de Rodez et qui est le vice-légat d'Avignon, c'est-à-dire l'un des chefs de l'Église de France. Il y a 5 autres évêques présents. Et l'enfant reçoit le prénom d'Henri, à la place de son frère. Une fois la cérémonie terminée, le roi de Navarre fait répandre la nouvelle. Des recueils poétiques en plusieurs langues sont publiés pour perpétuer le souvenir de l'événement. Et Antoine, le père d'Henri, repart à la guerre, au nord, et Jeanne le suit. Le grand-père meurt le 25 mai 1555, il a 52 ans. Henri a 18 mois. Alors Henri d'Albret disparut, les responsabilités politiques et les titres changent. Jeanne est maintenant reine de Navarre et Henri, prince de Navarre. Nous allons faire une première pause musicale. Donc Henri est confié à une gouvernante, Suzanne de Bourbon. Il est élevé chez elle, à 5 lieues de Pau, avec ses trois enfants à elle. Le 19 février 1555, un frère naît au château de Gaillon, Louis-Charles. 3 ans passent, Jeanne séjourne à Pau, puis à Nérac, où elle donne naissance à une fille, Madeleine, qui ne vit pas. Antoine s'avise qu'il est temps de montrer son premier-né à la cour de France. En novembre, Antoine, Jeanne et Henri, alors, se mettent en route. Ils traversent leurs terres, sont fêtés partout, principalement à Limoges. Le 12 février 1557, ils sont reçus au Louvre par Henri II et Catherine de Médicis. Henri II le prend sur les genoux et lui dit « Voulez-vous être mon fils ?» Et le petit, qui comprend quand même le français, même s'il ne le parle pas, répond en béarnais qu'il a déjà un père, en montrant Antoine. Alors le roi poursuit « Voulez-vous être mon gendre ?» Et il répond « Oui, en béarnais. » Eh bien, ce sera vrai. Henri II n'a plus qu'une fille à marier, la dernière, Marguerite, celle qu'on va appeler la reine Margot. Alors la conversation tourne à la négociation matrimoniale. À quoi est-ce qu'il ressemble, Henri ? C'est un bel enfant, aux cheveux blonds. On dira même un peu plus tard que ça tire un peu sur le roux. Bouclé, les traits fins et délicats, ça va changer un peu après. Jeanne et Henri alors repartent vers le sud-ouest. Antoine les rejoint en été pour son entrée à Bordeaux, où il fait une entrée vraiment solennelle, parce que Antoine est gouverneur de la Guyenne. Janvier 1558, Antoine et Jeanne prennent la route de Paris à l'occasion du mariage du dauphin, François, avec la reine d'Écosse, Marie Stuart. Comment est-ce qu'il est élevé, Henri ? Eh bien, vraiment à la spartiate, avec beaucoup d'exercices physiques. Il traite très familièrement ses compagnons, et quand il reviendra après avoir été à la cour, il ne changera pas. Il va nu-tête et nu-pied, il est nourri de pain-bis, de laitage, de bœuf et d'ail. Ses compagnons et les serviteurs ont reçu l'ordre de ne pas l'appeler prince pour ne pas qu'il soit flatté. Il joue dans les montagnes, se baigne dans le Gave. Dans le courant de l'année 1558, des événements graves vont se produire. Le roi d'Espagne, qui a succédé à Charles Quint, qui a abdiqué, donc son fils Philippe II, envahit le Pays basque et s'empare même de Saint-Jean-de-Luz. Alors les Béarnais et les Navarrais sont bien décidés à se défendre tout seuls. Les États de Béarn donc se réunissent et ils votent une levée de 3000 montagnards. Seulement il faut demander confirmation au régent. Et qui est le petit régent ? C'est Henri que sa mère a mis régent en partant. Il a presque 5 ans et on possède la lettre qu'il écrit aux Béarnais du Val d'Ossau pour convoquer les hommes de 18 à 50 ans. La lettre est datée du 22 octobre 1558 et elle est écrite en béarnais. Antoine supplie alors Henri II d'envoyer un corps expéditionnaire pour aider les montagnards. Le roi réunit 3000 hommes, mais lorsqu'ils arrivent, les béarnais ont tenu comme ils ont pu, mais finalement, c'est la défaite. Et puis en plus, Antoine est malade. Donc il y a un traité de signé entre l'Espagne et la France en 1559. Et dans ce traité, il est mis aussi que Henri épousera Marguerite et qu'une fille de France va épouser le roi d'Espagne, Philippe II. Alors Jeanne a accouché à Paris de son 5e enfant le 7 février 1559. C'est une fille prénommée Catherine, pour faire plaisir à la reine bien sûr. Alors elle sera la seule survivante avec Henri des 5 enfants. Jeanne se met en route pour retrouver son fils et ses états. Tout le monde se retrouve à Nérac. La reine pense pouvoir se consacrer entièrement à ce moment-là au gouvernement de ses états. Catastrophe. Un messager des Guises vient leur apprendre que lors d'un tournoi pour les noces de la dernière des Valois, son père, le roi Henri II, a participé à un tournoi et a été mortellement blessé par son capitaine, qui ne l'a pas fait exprès bien sûr, de Montgomery. Henri II décède le 10 juillet. Alors qui va lui succéder ? Bien sûr l'aîné, son fils, qui prend le titre de François II. Il a 15 ans, il est marié à Marie Stuart. Il a peur de régner. Alors il se tourne vers sa mère, Catherine de Médicis. Seulement cette Catherine de Médicis, elle n'est pas encore capable de s'imposer. Si bien que ce sont les oncles de la jeune reine qui prennent le pouvoir. Alors qui sont ces oncles de Marie Stuart? Le duc de Guise d'abord, et son frère le cardinal de Lorraine. Et ces derniers veulent pratiquer une politique très catholique, en alliance avec l'Espagne. Antoine, le père d'Henri, ne cache plus que lui, il a des sympathies pour les idées de Calvin, et il pense qu'il a un rôle à jouer en tant que prince du sang. Le voilà qui lève une petite armée, rejointe par Louis, prince de Condé, le prince de La Roche-sur-Yon, les neveux du connétable de Montmorency, l'amiral Coligny. La cour est à Saint-Germain. Donc cette petite armée, c'est une armée de protestants qui se dirigent vers la cour, vers Saint-Germain, devant le danger. La reine-mère fait alliance à ce moment-là avec le cardinal de Lorraine. Et tous les deux, on peut dire que ce sont deux têtes politiques. Alors, quand Antoine arrive, eh bien on se dit on va le flatter. Bon, on ne peut pas dire qu'il brillait vraiment par son intelligence, le pauvre Antoine. Alors pour le flatter, François II l'invite à son sacre à Reims et on lui donne la première place parmi les pairs. Et puis, pour faire bonne figure, Catherine a une idée de génie. D'après le traité qu'il y a eu entre l'Espagne et la France, sa fille, Élisabeth de Valois, a épousé le roi d'Espagne, mais le mariage s'est fait par procuration. Alors, il faut maintenant qu'elle rejoigne l'Espagne. Si bien que mener la nouvelle reine d'Espagne jusqu'à son mari, c'est un rôle privilégié. Eh bien, Catherine le confie à Antoine, tout gonflé d'orgueil. Il est absolument enchanté. De plus, il pense qu'il pourra rencontrer Philippe II et lui faire part de ses revendications sur la partie espagnole de la Navarre. Donc le voilà écarté de la cour, ainsi que tous ceux qu'il avait amenés avec lui. Donc il descend, il s'arrête à Bordeaux le 6 décembre, à Pau le 21, on passe Noël à Pau, et le lendemain, direction l'Espagne. Et Henri est du voyage. Plusieurs centaines de mulets portent la suite et les bagages. On prend la route des pèlerins de Compostelle. Le 31 décembre, on est à Saint-Jean-Pied-de-Port, puis la caravane arrive à Roncevaux. Et là, donc, la fille de France, elle doit traverser les Pyrénées à Roncevaux et rencontrer Philippe II avant à Roncevaux. Ben, il n'y est pas, Philippe II. Il s'est fait représenter par des grands d'Espagne. Alors, sa mission terminée, ben, Antoine, il reprend le chemin de Pau avec Henri. Il n'a pas perdu son envie d'avoir une vraie couronne. Alors, s'il ne peut pas avoir la Grande Navarre, c'est-à-dire la Navarre française plus la Navarre espagnole, alors il rêve d'un autre territoire, par exemple la Sardaigne, que le roi d'Espagne ne veut pas lui donner. Bon, alors le roi d'Espagne dit, bon, je ne veux pas vous donner la Sardaigne, mais prenez donc la Tunisie. Oui, mais à condition justement qu'il la prenne, Antoine, qu'il la conquiert. Revenons à ses idées calvinistes. Le Béarn reçoit favorablement ce qu'on appelle l'hérésie. Quant à Jeanne, elle pense que la réforme est juste et nécessaire. On possède d'ailleurs sa correspondance intime à ce sujet. En 1555, elle pense que ce n'est pas le moment de dévoiler ses idées au grand jour, alors elle dissimule sa conversion à son entourage. En 1556, elle introduit 4 ministres protestants sous l'apparence de prédicateurs catholiques. Ils prêchent, même en public. Son oncle, l'évêque de Lescar, n'y voit que du feu. Et Antoine? Ben, on peut dire que d'une façon générale, toute la haute noblesse s'interroge sur ses convictions dans les dernières années du règne d'Henri II. Est-ce pour des raisons de conscience ou pour un obscur sursaut d'indépendance aristocratique toujours à l'égard du pouvoir monarchique? En tout cas, Antoine déclare en 1557 qu'il est calviniste. Thank you. toujours sur Radio Grand Ciel et je vous parle du couple Antoine de Bourbon-Jeanne d'Albret, les parents du futur Henri IV. Donc, Antoine a déclaré qu'il était calviniste. Il demande à l'église de Genève de lui envoyer un prédicateur. Et ce prédicateur arrive en octobre 1557. Calvin écrit même en personne à Antoine. En 1558, Antoine et Jeanne rejoignent la cour. Antoine, avec son frère Louis de Condé, participe aux prêches qui se trouvent au Pré-aux-Clercs et il chante des psaumes avec les étudiants. Alors la question religieuse agite aussi les États du Béarn en 1558. Le ton monte, les députés catholiques se tournent vers le cardinal Georges d'Armagnac et ce dernier fait voter aux États une protestation énergique à Antoine et Jeanne. Ben oui, mais seulement le mal est déjà enraciné. À Pâques 1559, Antoine assiste à la scène dans un temple de Pau et il emmène Henri au prêche. 1560, un complot protestant, on dit encore huguenot, étourdi par une poignée de gentilshommes convertis. Une bonne partie de l'état-major vient du sud-ouest et les conjurés croient que le roi cédera à leurs arguments et qu'il renverra les Guises. Ceux-ci sont avertis du complot. Si bien que, au fur et à mesure que les conjurés arrivent en forêt d'Amboise, ils sont capturés et pendus. Antoine, maintenant qu'il a vu le mécontentement important qui agite la noblesse, se permet de jouer au chef de parti. Il sollicite même l'aide militaire de la reine d'Angleterre, Élisabeth, et aussi celle des princes allemands. En été 1560, Nérac devient le haut lieu du protestantisme européen. Antoine et Jeanne sont surveillés par les catholiques. On attend de voir alors la décision qu'ils vont prendre pour l'éducation du jeune prince de Béarn, qui a à ce moment-là 6 ans et demi. C'est l'âge auquel il passe des mains des femmes à celles des hommes. Alors on lui donne pour gouverneur Charles de Beaumanoir de la Vardin. Son fils Jean, qui a 8 ans, il sera aussi un compagnon d'Henri. Ce dernier a été baptisé et enseigné dans la religion catholique. Mais ses parents décident que dorénavant, il sera enseigné dans la religion réformée. Alors réaction du cardinal d'Armagnac qui en appelle au pape. Catherine de Médicis aussi, elle est très surprise de ça. Elle pense que le meilleur moyen pour tenir la noblesse, c'est de l'avoir à la cour. Il y en a un autre qui aura la même idée plus tard. Hein. Elle envoie le cardinal de Bourbon pour ramener Antoine et Jeanne à la cour. Alors il se décide à partir, même si la princesse de Condé, protestante convaincue, et fort lucide, essaye de les en dissuader. Ils s'en vont, accompagnés d'une petite armée. Ils arrivent à Orléans, où séjournent la cour. On les accueille militairement, comme des rebelles. Les Guises intimident le roi de Navarre et lui inspirent même des craintes pour sa vie. Finalement, on considère qu'Antoine n'est pas si dangereux, contrairement à Condé. Comme on pense dangereux ce Condé, on l'arrête. On l'emprisonne et même il est condamné à mort. Alors il aurait certainement été exécuté, je veux dire, si le roi François II n'était pas mort. Après 18 mois de règne, il est emporté le 4 décembre 1560 par la tuberculose. Alors qui va lui succéder ? Ben, il n'a pas d'enfant, donc ça va être son frère, le suivant, qui prend le nom de Charles IX et qui a 10 ans. Donc il va y avoir un gouvernement de régence. Normalement, ce gouvernement de régence, il est composé d'hommes. En principe, la reine-mère n'a que la tutelle et l'éducation de son fils. Alors, Catherine dresse ses plans. Elle fait entrer Antoine de Bourbon, qui est prince de sang, dans son jeu, afin d'écarter les Guises. Ceux-ci alors contre-attaquent en se liguant. François de Guise, le connétable de Montmorency, le maréchal de Saint-André, forment ce qu'on appelle un triumvirat. La reine-mère, alors, pour mettre Antoine de son côté, accorde des autorisations de prêche dans les maisons privées et elle libère même des détenus. On pense que c'est une ère de tolérance qui s'ouvre. Henri a 7 ans. Le 21 août 1561, la reine de Navarre entre à Paris avec Henri et Catherine. Elle loge chez un ami calviniste. Elle s'entretient avec Théodore de Bèze, son père spirituel, qui est arrivé de Genève le 23 août, pour participer à quelque chose d'assez curieux. C'est ce qu'on appelle une confrontation religieuse organisé par le roi de France, et ça s'appelle le colloque de Poissy. La cour est à Saint-Germain-en-Laye. On prépare l'arrivée de la reine de Navarre, un des plus beaux logements lui a été réservé, le soir on tire un feu d'artifice, et pour flatter les goûts régionaux, même des nouveaux venus, on fait une course de taureaux. À table, Jeanne est placée à côté de la reine-mère et son fils Henri, sur le même rang que le roi Charles IX. Coligny, c'est un protestant, hein, entre au conseil. L'évêque de Beauvais, frère de Coligny, rend public lui aussi sa conversion au calvinisme. Condé est libéré. Pour les Espagnols, c'est un scandale de voir Catherine laisser infester, comme dit Philippe II, ses États par cette peste que constitue le protestantisme. Philippe II a tort de s'inquiéter. Antoine de Bourbon, toujours versatile, revient par à-coup au catholicisme. On l'a vu à Pâques faire retraite dans un monastère et il a communié à la messe en public. Alors du coup, Jeanne prend ses distances avec cette girouette de Marie. Du 9 septembre au 9 octobre 1561, donc, a lieu ce colloque de Poissy. Ce sont des théologiens protestants et des théologiens catholiques qui s'affrontent devant un grand auditoire, mais qui s'affrontent uniquement par la parole, hein, bien sûr. Bèze, qui dirige la délégation protestante, se taille un beau succès. Et certains gentilshommes, influencés, chassent de leur maison les aumôniers et les chapelains et se convertissent. Le jour de la messe solennelle de Saint-Michel, Jeanne organise, elle, à Argenteuil, une autre manifestation concurrente, le mariage de son neveu Jean de Rohan avec Diane de Barbançon, célébré, selon le rite protestant, par Théodore de Bèze. À Saint-Germain, elle organise même des réunions dans son appartement. 300 à 400 personnes viennent chanter des psaumes traduits par Clément Marot. Et voilà que la reine-mère elle-même décide que la chapelle du château servira aux deux cultes, un jour sur deux. Quant à Henri, il accompagne Charles IX à la messe et sa mère à la scène calviniste. Jeanne essaie de convertir le roi. À mesure que l'on approche de la fin de l'année, le calvinisme gagne du terrain. Le clergé de France, lui, multiplie les protestations. Le pape et Philippe II unissent leurs efforts pour empêcher Catherine de Médicis de poursuivre cette politique qu'ils jugent absolument satanique. Alors cette dernière réalise qu'elle était un peu trop loin. Donc évidemment, réaction. Tout le monde est rappelé à l'ordre. Antoine a définitivement opté pour le catholicisme. Le torchon brûle alors dans le ménage. Antoine interdit à Jeanne d'assister au culte. Elle le fait quand même clandestinement. Son mari la somme de se retirer au château de Vendôme. Alors elle se résigne et le 28 mars 1562, elle y part avec sa fille, mais elle laisse Henri dans le Béarn. Donc, Jeanne d'Albret, la mère de Henri, le futur Henri IV, part s'installer donc à Vendôme. Elle laisse Henri à la cour de France. Il va partager la vie des trois cousins valois. Qui donc? Eh bien, c'est Charles IX, qui a 12 ans, c'est le roi. Timide, violent, maladif, inquiet. Et puis, le futur Henri III, qui a 10 ans et demi, qui est beaucoup plus intelligent, c'est le préféré de sa mère. Et puis le dernier qui a 8 ans, alors lui c'est une catastrophe. Il est noirot, physiquement mal formé et en plus il est sot. Et puis il reste une fille, Marguerite, celle qui est destinée au futur Henri IV. Elle est belle, intelligente, cultivée. Et le petit Béarnais, lui, eh ben, il est robuste, assuré. Il a l'esprit de répartie. Il est plutôt petit et rablé. Antoine, lui, veut ramener, puisqu'il s'est reconverti, Henri au catholicisme. Alors Henri résiste d'abord, puis finit par jurer de garder la foi catholique. Jeanne rejoint le Béarn parce qu'elle est malade. La cour, elle, est enfermée à Vincennes. On craint les Huguenots, dont les coups de main sont nombreux. Antoine met son fils à l'abri à Montargis, chez Renée de France, la fille de Louis XII. Lui-même prend la tête de l'armée catholique. Il s'agit de reprendre les villes de la Loire qui étaient tombées aux mains des protestants. Alors il récupère Blois, Tours, Bourges, et il en profite pour aller voir son fils à Montargis. Eh bien, Henri, il a la rougeole à ce moment-là. Les Huguenots essaient de s'en emparer, alors, en hâte, on le rapatrie, à Paris. L'armée royale, elle va en Normandie pour reprendre Rouen, et alors, Antoine est blessé, et il meurt un mois après. Il a 44 ans. Donc Henri se retrouve sans papa. Il lui reste sa mère, Jeanne. La cour prend le deuil. Catherine de Médicis permet à Henri de rester à la cour, mais elle laisse son éducation à sa mère. Et du jour au lendemain, voilà Henri replongé dans le rite calviniste. La cour s'installe à Fontainebleau. Henri de Navarre mène une vie d'orphelin. Il entre au collège de Navarre pour y apprendre les belles lettres. Il y reste 2 ans en externe. Alors on l'élève comme ses cousins dans le culte des héros de l'Antiquité, comme Alexandre, Pompée, César, et lui-même se passionne pour les romans de chevalerie. Il a une bonne formation latine, d'ailleurs une fois roi, il utilisera beaucoup le latin. Il possède des notions de grec, d'espagnol, d'italien, il écrit un français excellent, aux expressions très justes, des images, une pensée rapide, une très bonne orthographe, alors c'est un peu rare pour l'époque. Ajoutons qu'il y a aussi des idées sur l'histoire moderne, c'est surtout les faits d'armes des derniers rois, sur la bonté de Louis XII, sur la vaillance de François Ier, et puis d'excellentes notions de mathématiques. On peut dire que c'est l'éducation d'une tête bien faite. Et on y ajoute les exercices physiques. Il maîtrise parfaitement le cheval, c'est l'un des meilleurs écuyers de son temps. Il peut rester 15 heures en selle. Il manie parfaitement l'épée, la pique, il nage, il danse. Il a une endurance exceptionnelle qui fait vraiment l'admiration du roi Charles IX. Pour sauver le royaume de la guerre, Catherine, quand je dis la guerre, c'est la guerre civile entre protestants et catholiques, Catherine de Médicis donc envisage de montrer alors la famille royale à tous les Français. Elle se dit que si on fait un tour de France, on va réveiller le catholicisme. Alors elle entreprend un grand voyage à travers toutes les provinces. Le roi fait d'excellents discours. Les discours, évidemment, sont dictés par sa mère. Et l'immense cortège se met en route le 13 mars 1564. Henri est du voyage. Catherine invite la reine de Navarre à les rejoindre, ce qu'elle fait. Et les retrouvailles sont assombries, car la suite de Jeanne, protestante, insulte la procession de la fête Dieu. La reine de Navarre pense que son fils risque de perdre son âme dans le milieu de la cour. Elle trouve ce milieu très frelaté. Alors à Lyon, elle emmène son fils à des cultes. Je rappelle que son fils était revenu au catholicisme. Elle s'aperçoit alors que le garçon ne lui appartient plus. Il est tout proche des catholiques. Jeanne alors veut regagner le Béarn avec Henri. Eh oui, mais Catherine de Médicis refuse absolument. Elle peut bien aller dans le Béarn si elle veut. Henri reste à la cour. La cour finit par arriver en Guyenne. Henri de Navarre en est le gouverneur. Alors il précède donc le roi d'une journée pour l'accueillir dans chaque ville. À Bordeaux, il rencontre le maire de Bordeaux, qui est Michel de Montaigne. On approche de Bayonne, on prépare l'entrevue avec la reine d'Espagne, qui est donc la fille de Catherine de Médicis. Le prince de Navarre convoque toute la noblesse du pays pour l'accompagner. Le 14 juin, Élisabeth de Valois passe la frontière à la rencontre de son frère Charles IX. Les Espagnols sont impressionnés par la prestance d'Henri. Et le duc de Rio Sacco va dire même « il a l'air d'un empereur, ou il le deviendra ». À Nérac, Jeanne obtient de garder son fils avec elle quelque temps. Ils vont rejoindre la cour à Blois. Retour de tout le monde à Paris le 1er mai 1566. Jeanne va y rester 8 mois. Henri a 13 ans. Elle demande à Charles IX l'autorisation de conduire son fils dans les domaines où il n'est pas encore allé. Donc le roi dit oui. Après un court séjour à la Flèche, la reine de Navarre et son fils se hâtent de gagner le Poitou, puis la Gascogne. Henri choisit, très incité par sa mère, d'être prince de Navarre avant tout, et finalement chef du parti protestant. Le voilà qui change encore de religion. L'année 1567 est une mauvaise année. Le conflit entre catholiques et protestants s'ouvre en septembre. Le prince de Condé et le frère de Coligny veulent enlever le roi et la reine-mère. Catherine, bien sûr, a vendu projet, et elle réagit. Les royaux alors sont vainqueurs à Saint-Denis. Dans le Béarn, la discipline est très sévère, elle est imposée par Jeanne, et évidemment ça fait des mécontents. Alors il y a une conspiration qui naît et qui vise à enlever la reine et puis ses 2 enfants, et puis à renvoyer les ministres protestants. Ah ben c'est raté. la reine décide alors d'extirper définitivement de l'idolâtrie le Béarn. Alors finalement, il y a une autre révolte qui se lève. Jeanne décide, pour la mater, d'envoyer son fils. C'est la première campagne militaire d'Henri. Il part en février 1568. Il poursuit les mutins jusqu'au-delà de Saint-Jean-Pied-de-Port. Les Navarrais sont paternellement rappelés à l'ordre. Le prince, finalement, leur promet que lui et sa mère n'altéreront pas leurs privilèges, leurs coutumes et leurs libertés et qu'ils ne les forceront pas sur la religion. Eh bien, c'est tout ce qu'ils demandaient. Alors, ils sont tout contents et ils acclament Henri. Jeanne, elle, veut approfondir l'éducation de son fils. Alors, il continue les exercices physiques, il chasse l'ours, le sanglier, et deux précepteurs vont lui enseigner les humanités. Deux précepteurs huguenots, bien sûr. Florent Chrétien, qui est un excellent humaniste, et Charles Macrin, qui est fils d'un ami de Guillaume Budé. Le prince plaît tout à fait à son entourage, et un magistrat de Bordeaux trouve qu'à 13 ans, il a même des qualités d'une personne de 18 ou 19 ans. Il est agréable, il est civil, il est obligeant, il parle toujours à propos, et finalement, il s'insinue dans le cœur des gens avec une adresse tout à fait incroyable. Et puis les dames l'aiment beaucoup aussi. Alors, suite à la guerre des Pays-Bas où les Huguenots ont soutenu les révoltés, Catherine de Médicis décide de frapper un grand coup. Elle donne l'ordre d'arrêter Condé et Coligny, Andelot, le cardinal de Châtillon et bien sûr Henri de Navarre. Les intentions de Catherine sont connues, donc Jeanne revient précipitamment de Tarbes à Nérac le 15 août 1568. Des contingents énormes de Huguenots se sont donc levés pour empêcher que Henri soit capturé. C'est le conflit. La reine de Navarre se met à la tête de la réforme française pour défendre la religion et les droits de son fils qui a droit de succession après messieurs les frères du roi. La reine mère n'a pas réussi à faire arrêter les chefs huguenots. Ils ont gagné La Rochelle. Ce que font aussi les troupes huguenotes en chantant des psaumes. Jeanne monte avec Henri le 24 septembre 1568. Ils arrivent à Cognac qui ouvre ses portes à Henri de Navarre, direction La Rochelle. Le roi de France réagit, il interdit de professer la religion réformée, il prive de leur charge tous les officiers royaux protestants. Et il fait semblant de croire que Jeanne est prisonnière des rebelles à La Rochelle. Et finalement, alors, il lui confisque la totalité de ses biens. Et il ordonne l'occupation du Béarn et de la Navarre. Les hostilités sont ouvertes. Des deux côtés, on a fait appel à des mercenaires. Les deux armées se retrouvent devant Loudun. On dit faire l'affrontement parce qu'il fait trop froid. Les hostilités commencent en février 1569. Condé, alors ils sont battus les protestants, donc Condé offre de se rendre, il soulève sa visière pour se faire reconnaître et il est tué d'un coup de pistolet par l'un des gardes du duc d'Anjou, le futur Henri III. C'est un assassinat. Voilà Henri, à 15 ans, poussé au premier rang. Après la défaite de Jarnac, les Huguenots attendent des secours sur place. Alors je passe tous les combats. Henri de Navarre a combattu à Arnay-le-Duc pour la première fois. C'est la première victoire huguenote depuis longtemps. Des deux côtés, on en a assez, si bien que la paix est signée le 29 juillet 1570 à Saint-Germain-en-Laye. Quatre places de sûreté sont livrées pour 2 ans aux Huguenots, La Rochelle, Montauban, La Charité, Cognac. Et le roi reconnaît donc officiellement le parti protestant. En avril 1571, Jeanne et son fils assistent à La Rochelle à un synode. La confession de foi dite de La Rochelle y est élaborée. C'est un texte majeur qui est aujourd'hui encore le credo de l'Église réformée de France. À la cour de France, on s'est résigné à ce demi-échec. Catherine pense qu'elle va arriver à persuader le chef du parti huguenot les uns après les autres. Et Charles IX, le roi, il commence à s'affranchir de la tutelle de sa mère. Lui, il voudrait implanter solidement la paix dans son royaume afin de tourner ses efforts vers les Pays-Bas où il rêve de se mesurer avec les troupes espagnoles. Sa sœur, la reine d'Espagne, est morte, donc il n'est plus du tout gêné pour attaquer Philippe II. Il voudrait bien voir revenir à la cour son cousin Henri de Navarre qu'il aime beaucoup. Eh bien justement, la reine mère avait songé à un mariage entre sa fille, vous rappelez, Marguerite, et Henri de Navarre. Pour l'heure, ce dernier est à peau avec sa mère. Alors Jeanne reprend son œuvre pour l'arracher au catholicisme. Culte, baptême et enseignement calviniste sont obligatoires. La reine-mère, elle négocie auprès du pape pour une dispense. Ben oui, pour le mariage, il y a une dispense parce que Henri et Marguerite sont cousins, mais alors vraiment très lointains, hein, et puis à cause de la différence de religion. Alors, les émissaires se succèdent, à Pau pour fléchir Jeanne, parce que alors elle n'est pas du tout pour ce mariage-là. Et le dernier argument que Catherine va faire qu'elle va céder. Qu'est-ce qu'elle dit ? Eh bien, elle dit que Henri de Navarre est né du second mariage de Jeanne. Mais peut-être que la validité de ce deuxième mariage est contestable, parce que finalement, même si le premier mariage n'a pas été consommé, il y a quand même eu mariage. Alors le coup porte, c'est la destinée de son fils qui est en jeu. Si on laisse douter de sa légitimité, toutes les couronnes lui échappent. Alors elle se résigne. Elle veut voir la princesse promise à son fils. Henri l'accompagne jusqu'à Agen. Le pape lui envoie son légat, parce que le pape va absolument empêcher le mariage. Donc, il arrive à Blois, il s'entretient avec la reine-mère d'urgence. Eh ben oui, mais c'est raté, la reine-mère, elle veut renoncer à rien du tout. Jeanne voudrait que Margot, la future femme donc de son fils, se convertisse au protestantisme. Pardon. Alors, celle-là ne veut pas du tout en entendre parler. Hein. Si bien que Jeanne est exaspérée, et Charles IX aussi. Alors, il prend le dossier en main. Puisque le pape s'obstine à refuser la dispense nécessaire au mariage, eh bien, le roi s'adresse au docteur de la Sorbonne pour leur demander un avis théologique. Et sans s'inquiéter de leur réponse, il fait proposer un cérémonial qui devra contenter les deux parties. Les consentements seront échangés sous le porche de la cathédrale de Paris, en présence du cardinal de Bourbon. Le marié, s'il le désire, pourra s'abstenir d'assister à la messe qui suivra. L'accord est conclu le 4 avril, le contrat de mariage le 11. Alors Henri quitte Pau le 23 mai. Pendant ce temps, la santé de Jeanne s'altère. La fièvre se déclare. Elle ressent bientôt de violentes douleurs au poumon droit. L'agonie dure 4 jours. Elle envisage la mort avec sérénité. Elle s'inquiète seulement pour la religion de ses enfants, parce qu'elle sait qu'Henri est influençable. Le 7 juin, elle rédige son testament, et on le possède son testament. Elle exhorte Henri à rester protestant et le nomme tuteur de sa sœur, qui devra rester dans le Béarn. Elle s'éteint le 9 juin à 43 ans. La cour prend le deuil. Henri apprend la nouvelle alors qu'il est à Verteuil-sur-Charente. Et le voici soudain, roi de Navarre. Le 8 juillet, il arrive à Palaiseau, escorté par 900 gentilshommes. Il y est accueilli par les aînés de la maison de Bourbon. Il entre dans Paris, accompagné de Condé et de Coligny. Il loge au Louvre avec sa sœur. Il a 18 ans. Marguerite, la future mariée, est belle, cultivée, elle écrit même de la poésie. Mais alors, elle ne trouve pas Henri du tout à son goût. Elle lui préfère Henri de Guise. Et elle n'arrête pas de larmoyer sur son sort. La dispense pontificale se faisant attendre, le roi et sa mère décident de passer outre et d'abuser le cardinal de Bourbon en lui faisant croire que cette dispense est en route. Et le dimanche 17 août 1572, les cérémonies nuptiales commencent. On célèbre les fiançailles. Les noces ont lieu le lundi 18. Le marié est conduit à la cathédrale par le duc d'Anjou, c'est le futur Henri III, et le duc d'Alençon, le dernier des fils. La foule s'est agglutinée sur le parvis depuis des heures. La mariée paraît, couronne en tête, couverte de pierreries. Les consentements des époux sont reçus par le cardinal de Bourbon devant le peuple. Les mariés entrent dans la cathédrale. Devant le chœur, Henri laisse sa femme aux mains du duc d'Anjou, qui va la conduire à l'autel, mais lui, il sort de la cathédrale, accompagné des princes et des gentilshommes protestants. Il attend à l'évêché 4 heures que la messe soit terminée. Il y a un grand repas qui réunit tout le monde au palais de la cité. Le lendemain, on danse. Le jeudi 21, malgré le terrible précédent de la mort de Henri II, aux noces de sa fille, on dresse des lys pour faire un tournoi. Le lendemain, les gentilshommes huguenots commencent à quitter Paris, ou alors ils font leurs préparatifs. Eh oui, mais la trêve des confiseurs prend fin. La reine-mère peut réaliser alors son objectif. Elle veut supprimer le mauvais conseiller de son fils, Coligny. Je vous rappelle que nous sommes le 22 août 1572. À la semaine prochaine.